autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
Qu'est-ce que c'est?
C'est pour qui?
Comment fait-on?
Pourquoi c'est comme ça?
À quoi ça sert?
Caroline Achowski.
Bonjour et bienvenue dans notre cirque intérieur entraîné par la musique de Nino Rota pour nous demander ce qui se joue et comment dans notre cerveau, l'organe le plus complexe que nous avons tous en tête, enfin on peut l'espérer, ce fameux petit vélo dans la tête, pour reprendre le titre de la BD coécrite par notre invité, le neuroscientifique Laurent Vercueil, qui risque fort de passer lui aussi à la question face à la comédienne Anouk Grimbert, en direct également avec nous aujourd'hui. Anouk Grimbert vient de publier aux éditions Odile Jacob dans le cerveau des acteurs. Que s'y passe-t-il dans le cerveau des comédiens? Merci Anouk. Que s'y joue-t-il? Comment se met-on dans la peau et dans la cervelle d'un autre et jusqu'où? Comment le cerveau de l'acteur se prend-il au jeu? Et comment jeu peut bien devenir un autre? Vaste programme autour de la question comment se mettre dans le cerveau de l'autre? Bienvenue en piste derrière nos écrans mentaux. Fanfare félinienne de Nino Rota, quoi de mieux pour vous accueillir, chère Anouk Grimbert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, c'est d'ailleurs vous qui m'avez soufflé cette musique de Nino Rota, en direct avec nous donc pour tenter de comprendre et surtout de s'interroger sur ce qui se passe dans le cerveau des comédiens. C'est le titre de votre ouvrage, publié chez Odile Jacob, et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Ouvrage à nul autre pareil, dans lequel vous êtes demandé, Anouk Grimbert, ce qui pouvait bien se passer dans la tête des acteurs, dans la vôtre, dans celle de vos amis, comédiens, comédiennes, quand vous jouiez à être un ou une autre, à être dans le cerveau, dans le corps d'un ou d'une autre. Immense question que vous avez du coup aussi posée à d'éminents neuroscientifiques. C'est une vraie enquête que vous avez menée à nous autour d'une question qui vous taraudait, on peut le dire, en tant qu'actrice de théâtre, de cinéma, mais aussi autrice, peintre. C'est une question qui vous habite ou que vous êtes souvent posée en jouant.
Oui, enfin, tout en jouant et tout en jouant le jeu du jeu, c'est-à-dire en étant au plus innocente que je peux essayer de l'être quand j'incarne tel ou tel ou tel, il y avait toujours un bout de moi qui se demandait mais qu'est-ce qui m'arrive quand je suis possédée par des émotions que je ne connais pas, quand je suis traversée par une mémoire que je ne connais pas, quand par exemple je me débats dans un siècle que je n'ai pas connu, que je souffre de souffrances que je n'ai jamais rencontrées et que tout ça a l'air vrai, comment j'ai l'air vrai, et je me suis demandé comment mon cerveau, mais pas que le mien à moi, Anouk, mais comment notre cerveau à nous, acteurs, pouvait nous aider à jouer la comédie. Qu'est-ce qui est vrai dans le cerveau pour qu'on ait l'air vrai? Et est-ce que tout le cerveau est au courant qu'on joue la comédie ou est-ce qu'une part de lui ne sait pas? Si par exemple je suis en Russie au XVIIIe siècle, est-ce qu'il est au courant de ça? Ben non. Est-ce que quand je joue Jeanne d'Arc face à ces juges qui va être écartelée, torturée, est-ce que je joue la comédie? Est-ce que mon cerveau joue la comédie? Un peu de lui joue et des parties très archaïques du cerveau sont prises au jeu. Ça veut dire elles ne savent pas. Et ça c'est extraordinaire. C'est que ça peut être le neuroscientifique avec qui je suis nous l'expliquera mieux, mais en fait, comme le cerveau dans la vie, quand on est dans la vie, le cerveau ne manipule que de la fiction. Il ne brasse que de la fiction.
Il se raconte beaucoup d'histoires, ouais. C'est ça.
Et c'est sans doute grâce à ça, grâce à ce fonctionnement cérébral, qu'on peut raconter des histoires de la fiction en fiction, comme on en trouve dans les bibliothèques. C'est grâce à ce fonctionnement cérébral, donc grâce à nos déraillements cérébraux, qu'on peut incarner avec vérité une histoire qui n'est pas la nôtre, avec sincérité, alors qu'on fait semblant.
déraillement, dysfonctionnement ou vrai fonctionnement de notre cerveau. On va essayer de comprendre un peu, de pénétrer les arcanes du cerveau, cet organe si complexe que nous avons tous en tête. Enfin, en tout cas, on l'espère, avec vous, Laurent Vercueil. Donc, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes Laurent Vercueil, neurologue au CHU de Grenoble, chercheur INSERM au Grenoble Institut de Neurosciences. Et vous êtes également un formidable passeur de science, auteur d'ouvrages remarquables comme Les chatouilles et autres tracas neurologiques ou encore Neurophysiologie des contes de fées. Vous venez, Laurent Vercueil, de publier avec le dessinateur Gilles Macagnot une bande dessinée géniale dont nous avons aussi un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, et qui s'intitule Un petit vélo dans la tête, aux éditions Humaine Science, la journée presque ordinaire d'un cerveau, où on découvre, Laurent Vercueil, que sans que nous nous en rendions compte, un peu comme le disait Anouk à l'instant, d'abord il se passe 1 milliard de choses entre nos deux oreilles, le petit vélo dans la tête il ne s'arrête jamais, il y a beaucoup d'histoires aussi, on va y venir, mine de rien on est tous des super héros, c'est ça ?
Oui, infatigable comme le petit muscle qui relève la paupière le matin. Le cerveau ne s'arrête pas et même lorsqu'on ne fait rien, il continue à travailler. Il bricole. On a un petit chapitre avec Gilles qu'on a consacré à l'ennui. Théoriquement, le moment où justement on se tourne les pouces parce qu'il n'y a rien à faire. En fait, on ne se tourne pas tant les pouces que ça, ou plutôt pendant qu'on se tourne les pouces, là-haut, ça brasse. On combine ce qui nous est arrivé, les récits de la veille, de l'avant-veille, ce qui peut nous arriver plus tard, notre futur. Et cette combinaison de futurs possibles, de passé déjà à la métaboliser, etc., ça constitue la base de la créativité du cerveau. C'est ce qui nous permet de créer des possibles.
Et donc de créer des possibles, on va y revenir, c'est le sujet de cette émission, et donc de créer du jeu, c'est-à-dire de s'inventer. Le cerveau, il se raconte tout le temps des histoires. Le petit vélo dans la tête, c'est pas qu'une image.
Moi, j'ai presque coutume de dire que c'est la fonction de notre conscience. C'est-à-dire que nous sommes des animaux conscients, il y en a d'autres, nous ne sommes pas les seuls, mais en tout cas, nous avons une forme de conscience dont le but est de nous raconter des histoires qui nous permettent de garder une cohérence à ce qu'on est en train de vivre, d'éprouver. Et sans arrêt, on reconfigure ces histoires en fonction des nouveaux événements qui traversent notre vie. Donc, ces histoires, ce sont, comme le disait Anouk Grimbert, des fictions, parce qu'elles ont un rapport plus ou moins établi avec la réalité. Des fois, on s'en éloigne un petit peu. Et ce sont ces histoires aussi qui nous permettent de jouer notre vie. En fait, d'être...
On joue notre vie.
Ben oui, quelque part.
On est tous un peu acteurs comme vous.
On est tous un petit peu acteurs. La différence, c'est que les comédiennes, les comédiens, eux, le font professionnellement. Et ils arrivent à cultiver cette faculté que décrit très bien Anouk Grimbert dans son livre, d'y croire vraiment. Alors que nous, on va croire jusqu'à un certain point, et puis à un moment donné, nos histoires qu'on se raconte sont un petit peu trop loin de la réalité, on finit par se mentir. Et lorsqu'on se ment, ça finit par se voir. Si je m'invente une biographie qui n'est pas la mienne, je risque de mal la jouer et d'être reconnaissable. Donc voilà, la différence, c'est ça, c'est que nous, on n'est pas des bons acteurs.
Mais on joue tout le temps autour de la question comment se mettre dans le cerveau de l'autre et comment notre cerveau peut jouer justement. Alors tous les jeux, dans votre ouvrage d'ailleurs, vous jouez beaucoup Anouk Grimbert sur le jeu J-E-U, jouer, et puis le jeu J-E, le jeu sujet.
Je joue à ça, c'est que ma vie est peuplée de jeux et c'est un livre qui parle de cette surpopulation.
De jeux, chez vous, chez les autres acteurs et comédiens que vous avez croisés, et des explications des neuroscientifiques. Je propose de commencer notre réflexion, ce remue-ménage, par une petite mise en onde par notre réalisateur Hugo Violas, de votre bande dessinée Laurent Vercueil, Le petit vélo dans la tête, deux circonstances, puisque vous commencez, c'est le tout début de cette BD, par y réveiller notre cerveau, ou plutôt le cerveau du héros de votre BD, qui, comme chacun d'entre nous, doit bien se réveiller et ouvrir l'œil au son du réveil matin, ce qui est loin d'être de tout repos.
Son, non masculin, sensation auditive engendrée par une onde acoustique.
Audition, oreille, tympan, marteau, enclume, étrier, cochlée.
Les ondes acoustiques font vibrer la chaîne des osselets qui, à leur tour, fait onduler le fluide qui remplit la cochlée.
Ces vagues déplacent la membrane basilaire
qui file au cerveau. C'est son mouvement cochléaire qui génère l'influence. Bref, tous les matins de la semaine, à 7h, le réveil néerlandais de Gino lui demande de se réveiller.
Le réveil donc. Phase 1, résistance. Phase 2, soulèvement irrépressible des paupières. Phase 3, extinction brutale et définitive du stimulus.
Le soulèvement des paupières est la clé du réveil. C'est le message auditif qui, filant au cerveau, sonne l'alarme en traversant la formation réticulée. La formation réticulée est le centre de l'éveil, l'interrupteur qui allume le cerveau, le bouton de mise en route. Sa plus proche connexion est celle des noyaux commandant les muscles releveurs des paupières. Ce sont des muscles infatigables, toujours toniques durant l'éveil. Sans contrôle, ils relèvent inlassablement les paupières. Ce n'est que lorsque l'on est en sécurité, à l'abri des prédateurs ou dans le confort d'un lit douillet, que le cerveau consent à lâcher la bride et laisse les releveurs se détendre. Mais ce matin, tout va bien pour Gino. Son système d'éveil a pu réamorcer la conscience et la commande motrice volontaire. Il se lève, sa journée commence. Ses releveurs des paupières finiront par retrouver tout leur tonus.
Bon, sur la planche de BD, on voit quand même que Gino, il a encore les yeux un peu fatigués et qu'il va falloir passer encore par l'étape petit déjeuner pour réveiller complètement son cerveau et son corps. Les deux sont liés, évidemment, mais c'est pas simple d'ouvrir l'œil et le bon. Et tout ça, c'est dans le cerveau hein, que ça envoie des signaux partout dans tout notre corps.
Oui, c'était super d'entendre comme ça cette mise en onde.
Merci Hugo Violas.
Et puis c'est aussi tout le talent de Gilles Macagno d'avoir
tout
ce dessin et ce récit qui fonctionne bien. Alors là, le message, c'était surtout cette connexion entre le mécanisme de l'éveil et cette ouverture des yeux. Lorsqu'on est réveillé, on a les yeux ouverts. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on est conscient. On a, par exemple, en réanimation, malheureusement, des patients qui ont les yeux ouverts, qui ont un éveil. Mais qui sont inconscients. On peut avoir une dissociation entre la conscience et l'éveil. Et ça, c'est assez peu connu hein, en pratique.
Et en fait, donc on peut être dans un état qui est quoi ? Un état, on est éveillé, mais on n'est pas conscient de ce qu'on est, de qui on est.
Alors c'est ce qu'on appelait à une époque l'état végétatif persistant, malheureusement. Mmh. Maintenant, on parle plutôt d'éveil non communicant, qui sont des gens qui n'ont plus d'activité au niveau du cortex, donc ce qui nous permet d'avoir des idées, une pensée, une conscience en pratique. Mmh. Mais par contre, encore une activité dans le tronc cérébral qui leur permet d'avoir un éveil. Ils sont réveillés ou ils dorment. Et lorsqu'ils sont réveillés, ils ont les yeux ouverts. Parce que lorsqu'on est réveillé, on a besoin de surveiller l'environnement. On a besoin de savoir ce qui se passe. Et si je vous demande de fermer les yeux, ben vous ne serez pas très à l'aise. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. Alors que vous êtes éveillé, vous ne pouvez fermer les yeux que si vous êtes en totale sécurité. C'est-à-dire chez vous, la porte bien fermée, avec la couverture à peu près remontée jusqu'au cou. Là, on ferme les yeux parce qu'on est bien. Mais sinon, nos yeux doivent être ouverts parce qu'on est réveillé. Et ça, c'est ce petit muscle qui est tout petit, qui abat un boulot de dingue parce qu'il se contracte du matin au soir, sauf les petits clignements qu'on a. Et même ces petits clignements qu'on a, ils sont assez étonnants parce qu'en fait, ils ne sont pas très, très longs, mais ils courent quand même sur un dixième de seconde, hein, en gros 150 millisecondes.
À chaque fois qu'on bat les paupières.
Et comme ils se répètent entre 5 et 20 fois par minute, on finit au bout de la journée à avoir passé beaucoup de temps les yeux fermés. Et pourtant, on n'a pas cette perception d'un voile noir qui tombe, comme un rideau de théâtre. On ne voit pas ça. Parce que notre cerveau est bien au courant du moment où il va cligner. Donc, il décide d'ignorer totalement les images noires qui vont arriver au moment du clignement.
Fascinant. Ce qui est fascinant, c'est tout ce qui se passe et tout ce qui ne se passe pas, d'ailleurs. Mais tout ce qui se passe dans notre cerveau, c'est quoi la réalité du cerveau et du jeu ? Vous parlez de conscience, on va parler du jeu aussi, on va arriver à ce qui se passe dans le cerveau des comédiens avec Anouk Grimbert. Est-ce qu'on est conscient tout de suite qu'on est soi-même, qu'on est où on est
Non, je pense qu'il y a un moment donné où on a en tout cas cette faculté. Alors la conscience, on distingue souvent deux, globalement deux types de conscience. La première, c'est la conscience en gros des événements en train de se produire. Et puis il y a cette conscience qui se retourne sur soi-même en se disant, ok, là, qu'est-ce qui m'arrive hein, je suis en train d'être conscient d'avoir ça. Donc une espèce de conscience. Et cette deuxième conscience, elle apparaît généralement vers l'âge de 5-6 ans, au moment où les enfants ont une maturation notamment de la région des hippocampes, qui leur permet d'avoir cette faculté de se retourner sur eux-mêmes. Et moi, alors personnellement, si je peux raconter ma petite vie, qui n'a pas grand intérêt, mais pour l'occasion, je me rappelle très bien, vers l'âge de 5 ans, être sur la terrasse familiale, en train de me dire tout d'un coup, ah ben tiens, tout ça, c'est quelque chose qui m'arrive à moi. De réaliser
la prise de conscience
que
de
tout
soi.
D'un coup, cette conscience était quelque chose qui m'appartenait et qui faisait de moi un individu.
Donc à vous, aujourd'hui neurologue, brillant neurologue, laurent scientifique et auteur, donc ça c'est moi. On voit bien donc, si on pense moi, on pense les autres. Autour de la question comment se mettre dans le cerveau de l'autre, on va en revenir au cerveau des comédiens. Je propose d'abord d'écouter comment une comédienne, en l'occurrence Yolande Moreau, que vous avez souhaité entendre dans Séraphine, Anouk Grimbert, comment Yolande Moreau parvient à se mettre totalement dans la peau dans le cerveau, dans le corps, dans l'esprit, dans la voix d'une autre, et pas n'importe laquelle, Séraphine de Senlis, humble femme de ménage qui a peint des chefs-d'œuvre hallucinés et hallucinants, extrait à écouter sans modération.
Vous avez déjà été amoureuse ?
Ces choses-là sont privées.
S'il vous plaît.
Vous ne direz rien à personne. Une fois, il y a longtemps, j'étais amoureuse. Oh, oui. Il s'appelait Cyril, un officier. Il m'a fait la cour. On s'est fiancés. Et puis un jour, il a disparu.
Vous n'avez pas cherché à le revoir ?
Quand on fait de la peinture, mademoiselle, on aime autrement. Puis souvent, je le vois de l'intérieur ou à travers d'autres visages. Et je me dis que si je pense encore à lui, peut-être il pense encore un peu à moi.
Sublime extrait de Séraphine, interprété, enfin j'ai envie de dire investi, je ne sais pas comment dire, possédé, par Yolande Moreau, Anouk Grimbert. Vous avez souhaité entendre cet extrait-là, parce qu'on cherchait ensemble comment illustrer justement le fait que une bonne comédienne, on vous entendra tout à l'heure ensuite, nous fait, nous, spectateurs, être dans la peau de l'autre, et comment elle fait elle-même. C'est ça la question que vous vous êtes posée.
Ben, c'est la question que je me suis posée, mais aucun des acteurs ne sait répondre à cette question. Et je pense que plus on est investi, plus on aime faire ce travail dans les règles avec les règles d'or de ce métier, et moins on est en possession de... Enfin, moi, on sait comment l'engin se pilote.
Ça vous échappe ? Vous direz que ça vous échappe, en fait ?
C'est-à-dire, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est qu'on prépare le terrain pour que ça nous échappe. Et on prépare le terrain, ça veut dire... D'abord, on sait qu'on n'est pas maître du jeu. Qu'être en pleine possession de ses moyens, c'est perdre ses moyens. Et c'est pas perdre la face, mais c'est avoir une face, un visage, et ce qui se lit sous le visage, qui, en gros, ne cesse un peu de jouer à la comédie. En fait, les acteurs sont des gens qui jouent moins la comédie que les autres.
Très étonnant, très paradoxal, mais c'est tout le temps ça hein, dans votre ouvrage. Très, très étonnant. Au fond, il y a un moment, vous préparez beaucoup pour jouer la comédie, et à un moment, vous ne la jouez plus.
Non, c'est, enfin, on n'oublie jamais qu'on joue parce que c'est notre job. On est à la fois.
Parce qu'il faut revenir après dans sa peau, j'imagine aussi.
Oui, mais ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais on, je pense qu'il y a une partie de notre cerveau qui n'oublie jamais que c'est de la comédie, et parce qu'il n'oublie pas ça. Alors une autre partie, et bien d'autres parties au pluriel, s'abandonne à un jeu dont on n'a pas la maîtrise, et on accepte ce jeu-là. C'est comme si... il y a des gens qui jouent la comédie, et puis il y en a d'autres qui laissent le jeu se faire. Et moi, je vois très bien la différence entre ces différents acteurs. Ils peuvent être tous très passionnants. Moi, je me suis intéressée aux acteurs et actrices où on ne voit pas, on ne comprend pas comment ils font. Et ceux qui sont un peu possédés et qui sont pourtant parfaitement lucides, mais qui sont traversés par des émotions, des biographies. Là, par exemple, on a entendu Yolande Moreau. Vous savez, pour un acteur, la caméra la plus impressionnante, c'est pas la caméra, c'est le micro. Un micro, la voix, ça trompe pas. On peut tricher le visage, on peut tricher des petits muscles, on a la connaissance de nos visages, mais la voix, ça triche pas. Là, Yolande, dans l'extrait que vous avez passé, il y a quelque chose dans sa voix de si illettrée, par exemple. On l'entend improviser le texte, alors qu'elle l'a appris 3 semaines avant. Donc, elle, à la fois, elle sait la chose parfaitement et elle se met en état de l'oublier totalement pour être en jeu.
Pour être en jeu. Qu'est-ce qui se passe quand vous jouez une autre. Hein. Vous avez joué Anouk Grimbert ou été joué, je ne sais pas comment il faudrait le dire, au théâtre et au cinéma. Vous avez été mystique, vous le dites, tortue, vieille femme, amoureuse, tyran. On va le découvrir ensemble après avoir écouté le choix musical de Laurent Vercueil qui va réagir à vos propos. Mais après, votre choix musical, Laurent Vercueil, est en lien précisément avec notre question du jour. Qu'est-ce qui se joue dans le cerveau des acteurs? Et si vous avez choisi de nous passer un tube des années 80, Such a Shame, dans les oreilles, ce n'est pas du tout par hasard. Vous nous expliquerez ensuite pourquoi. Allez, on l'écoute, Such a Shame, sur RFI. Shame, succès des années 80, oui, je m'en souviens bien, du groupe Talk Talk sur RFI. Mais pourquoi ce choix musical, Laurent Vercueil? Je rappelle que vous êtes neurologue et que nous sommes avec la comédienne Anouk Grimbert autour de la question comment le cerveau se prend au jeu et se prend pour un autre.
Eh ben, c'est bien le livre d'Anouk Grimbert qui m'a soufflé ce titre. En fait, c'est un tube qui a été inspiré d'un livre, un livre culte qui s'appelle L'Homme D, qui est écrit par Luc Reinhardt. Ça, c'est le nom de plume de l'auteur, qui en fait, son vrai nom, c'est George Cockcroft, quelqu'un d'une timidité maladive, en fait, qui avait besoin de se cacher, de masquer. Et ce que raconte l'homme D, c'est un personnage qui va tirer au dé, en fait, toutes les décisions de sa vie.
Et donc, c'est il joue sa vie au dé.
Voilà, il joue sa vie au dé. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même avait rencontré sa femme à la suite d'un jet de dé comme ça qui l'avait conduit à épouser donc celle qui est devenue sa femme. Et donc, ça, c'est en gros tirer un petit peu la ficelle de on joue nos vies. On joue nos vies. Et finalement, la comédienne, le comédien qui, sur scène, va incarner des personnages de telle manière que presque le personnage passe à travers lui. Hein, au quotidien, nous, à notre modeste position, hein, on endosse des fois des rôles comme ça. Et moi qui suis médecin, lorsque je suis en train de recevoir une patiente, un patient, je joue le rôle de médecin qui est peut-être pas la même façon d'être moi que lorsque je suis en famille avec mes enfants.
C'est-à-dire qu'on aurait plusieurs facettes hein, pour répondre enfin, à l'interrogation énorme hein, d'Anouk Grimbert dans son ouvrage « Dans le cerveau des comédiens », Laurent Vercueil. On aurait finalement plein de facettes, plein de vies et on jouerait inconsciemment, enfin, ça se fait tout seul. Tout
oui,
ça.
Oui, parce que je pense que c'est ça, exister, hein, mine de rien. C'est-à-dire que une des questions que soulève le livre d'Anouk, c'est finalement la vérité de la personne, elle est où?
Qui est vrai?
C'est pour ça que la question, quand vous dites est-ce qu'on jouerait tout le temps, je ne pense pas que ce soit exactement ça la question. C'est que, puisqu'il s'agit tellement de la vie, c'est juste qu'on vit plusieurs identités à la fois. Multiples chaque jour entre le médecin que vous êtes, le père que vous êtes, l'amoureux que vous êtes, l'interviewé que vous êtes, idem pour moi, idem pour vous. Et sans parler de qui on est dans nos rêves, mm-hmm. de qui on mm-hmm. est dans nos imaginations, je crois que c'est un leurre d'imaginer quelqu'un qui vit à l'unisson de lui-même. On est multiples alors que tout ça se passe dans une seule tête, un seul cerveau.
Et à toute allure, on est multiples. Hein. Moi, j'ai envie de dire comme Anouk Grimbert, on est vraiment multiples. Mais donc, ce serait un idéal ou complètement faux de penser qu'on peut avoir un cerveau tranquille, être unique et toujours le même
On est le même à travers toutes ces identités. C'est-à-dire que malgré tout, moi, je pense qu'on est tout à fait les bateaux de Jason, là, dont on change chaque pièce et qui pourtant reste toujours le même au cours du temps. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr, on change au cours du temps, on incarne différentes situations, parce que c'est les situations qui font ce qu'on est, la preuve là, aujourd'hui. Hein. Et pourtant, c'est quand même moi qui suis là. Et si je suis aussi comme ça, malléable par les situations, c'est aussi parce qu'en fait, il n'y a pas un moi idéal qui serait le Laurent Vercueil vers lequel je tendrais de rejoindre. Je suis ce que je fais. Et j'essaie de le faire de manière à incarner le mieux possible cette personne que j'ai envie d'être.
Mais la différence, pardon, il y a peut-être moins d'écart entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Quand vous dites « je suis Laurent Vercueil », un peu quoi que je fasse, moi, je ne peux pas dire que quand je joue Médée qui tue ses enfants, je suis une tueuse. Que quand je suis une femme à qui on arrache ses enfants parce qu'elle est trop pauvre, et que vraiment, au moment où je le joue, je suis possédée par une vie qui n'est pas la mienne. Alors, si je suis tout ça, je ne sais vraiment pas qui je suis. Mais c'est aussi intéressant, ça ne me gêne pas. C'est juste que, dans la vie, les gens parfois, d'ailleurs souvent, demandent aux acteurs, mais enfin, allons, qui tu es, toi, à force de te prendre pour un tel et un tel. Et sous ces questions, il y a toujours un peu, en sous-entendu, implicite, la question morale de tu mens ou tu ne mens pas, mais plutôt tu mens.
Et quand est-ce que tu mens, finalement?
Et quand est-ce que tu mens, quand est-ce que tu ne mens pas? En sous-main viendrait cette espèce d'évidence que eux qui sont dans la vie ne mentent pas, ne trichent pas, puisqu'ils sont eux-mêmes. Bullshit, quoi.
On triche tous ou on dit tous la vérité, mais à tour de rôle.
Mais c'est pas ce que... Mettons-nous à la place du cerveau, oui. Si c'est possible.
Si c'est possible.
Si c'est possible de se mettre à la place du cerveau, c'est pas que on fait semblant, c'est pas que on joue la comédie, c'est pas que on triche. C'est que le cerveau ne peut pas fonctionner autrement qu'en se faisant des films, en se racontant des histoires et en étant acteur dans ces histoires, mais acteur sincère. Les histoires qu'il se raconte, le cerveau, pour mettre du sens à ce qu'il vit, ou pour donner sens à la personne qu'il a en face de lui, c'est des histoires auxquelles il adhère. Vous êtes en train de vous raconter une histoire sur moi et moi sur vous.
Absolument.
Et c'est ça, les relations.
C'est ça.
Et quand on a la chance d'avoir un peu, pour ma part, croisé les neurosciences dans sa vie, et pour Laurent, c'est toute la vie, il y passe sa vie, mais quand on a la chance de comprendre un peu ce qui se passe dans nos têtes, c'est pas qu'on se raconte moins d'histoires, parce que c'est la vie de se raconter des histoires. Mais juste, on est plus conscient qu'on s'en raconte. On est un peu moins dupes.
On est plus conscient de ce qui se passe. Vous êtes d'accord, Laurent Vercueil ?
Oui, ce que je voulais dire par rapport à votre réaction à Anouk Grimbert, ce que je voulais dire, c'était que dans la façon d'être d'autres personnages, parfois très, 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 très éloignés de soi, le cerveau de la comédienne ou du comédien met en œuvre les mêmes mécanismes.
Absolument.
Que ce qu'on met en œuvre quand je endosse ma blouse de médecin et que je deviens le docteur Vercueil. Vous voyez, c'est cette façon de se transporter.
Mais c'est très
donc,
troublant.
Effectivement, parce là, c'est une profession et on va très, très, très loin dans cet endossement d'incarnation.
Je vous reprendrai sur l'histoire de mensonge, mais parce que Laurent Vercueil, quand vous dites on endosse ça, le cerveau est capable, enfin, le cerveau nous fait être en même temps plusieurs personnes, nous fait jouer la comédie, c'est notre... Parce qu'il est plastique, c'est sa plasticité.
Alors, c'est la plasticité, notamment grâce à tous les mécanismes d'apprentissage. Hein, le fait de répéter, parce que derrière, il y a du travail.
Bien
sûr. La comédienne, elle répète son texte, etc. Donc tous ces mécanismes d'apprentissage vont nous créer ce qu'on appelle des routines. C'est-à-dire, des routines, c'est vraiment des choses qui sont comme des signatures de ce qu'on est. c'est-à-dire des choses qui peuvent être des attitudes, des postures. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui me connaît bien, me voit arriver de loin, il sait à ma façon de marcher que c'est moi. Vous voyez,
et donc une comédienne, elle intègre quelqu'un d'autre, enfin, elle intègre les attitudes de quelqu'un, elle se les approprie, et voilà, elle se
exactement.
Les digère.
Dans ses circuits d'apprentissage, elle va récupérer plein de signatures qui sont des affects, qui sont des façons d'être, des postures, des gestes, qui vont réaliser cette personne. Et effectivement, comme l'a dit Anouk tout à l'heure, il va y avoir besoin un petit peu d'un lâcher prise, d'une certaine façon de laisser passer les routines, donc de moins intervenir possible, de manière à ce qu'il puisse se dérouler facilement.
Une sorte de caméléon avec énormément de travail derrière pour le devenir.
Moi j'ai découvert que dans notre cerveau, il y a au fin fond du cerveau, dans l'endroit le plus reculé, un tout petit noyau qui mesure 3 mm. Qui s'appelle le noyau subthalamique, mais qu'on peut appeler autrement une turbine, et qui est en gros, c'est comme si c'était le cerveau de notre cerveau, c'est celui qui pense à notre place, qui nous permet d'agir sans réfléchir, qui prévoit les dangers avant nous, et c'est celui qui, en gros, nous simplifie la vie. Et cette petite turbine, son job, c'est à la fois d'apprendre en permanence, et de mécaniser, d'automatiser. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand on joue la comédie, par exemple, j'apprends Molière. Je dois travailler Molière. Donc j'injecte dans mon cerveau, ma conscience, j'injecte du Molière, j'injecte des vers, j'injecte tout ça. Et puis ça va descendre, ça va aller jusque dans la petite turbine, ça va la conditionner. Cette turbine qui date de 400 millions d'années, qu'on a en commun avec les crocodiles, les oiseaux, bon. Cette petite turbine qui a 400 millions d'années, elle va recevoir du Molière, des vers, et ensuite elle va mécaniser, automatiser, m'envoyer des informations par le corps pour m'aider à être l'enfant naturel de Molière.
L'enfant naturel de Molière, bon. Du cerveau jusqu'au corps, parce que tout est lié. Je propose qu'on vous écoute un petit exercice pratique autour de la question comment le cerveau se prend au jeu jusqu'à devenir justement un autre, ou plutôt une autre, Anouk Grimberg. Vous m'avez à juste titre renvoyé sur un excellent téléfilm français réalisé par Caroline Gloison.
Il s'intitule Glorion,
eh ben merci, Caroline Glorion, Joseph l'Insoumis, dans lequel, alors le non moins excellent Jacques Weber joue le rôle du père Joseph Wrzinski, curé révolutionnaire dans le combat dans les années 40, au cœur des bidonvilles contre l'indignité et la misère, est à l'origine notamment de l'association ATD Quart-Monde. Vous-même, Anouk Grimberg, parmi d'autres femmes qui ne sont pas comédiennes professionnelles, vous jouez, ou vous êtes, je ne sais pas comment il faut le dire, enfin vous devenez une de ces femmes de bidonville, extrait de ce téléfilm Joseph l'Insoumis.
Je m'appelle Joseph Wrzinski, et je vis ici, dans la banlieue de Paris, au milieu de ces familles qui réveillent douloureusement le souvenir de mon enfance et la misère de mes parents. En cette fin des années 50, la France se reconstruit, sans se préoccuper de nous, les oubliés du progrès, entassés dans ces bidonvilles qui poussent comme des champignons autour des grandes villes. Moi, je suis aumônier ici. Je partage la vie des gens. Et je sais que tout ce que je peux entreprendre ne servira à rien tant qu'ils resteront dépendants de ces œuvres de bienfaisance. C'était ce dont j'avais le plus souffert dans mon enfance. Les regards de pitié. Et surtout, l'humiliation d'être toujours celui qui reçoit. Ce sentiment insupportable d'aliénation.
Moi, je me suis mariée... Enfin, on m'a mariée, j'avais 14 ans. Et mon mari, lui, il voulait pas qu'on me regarde. Il voulait même pas que je sorte de chez moi. Et donc, je suis restée peut-être 10 ans enfermée. Le seul endroit où j'avais le droit d'aller, c'était à l'épicerie. Et c'était bien, l'épicerie. Il voulait même pas que personne du camp me regarde, me croise, alors il m'enfermait, il tabassait, quoi. Et c'était comme ça, normal, tous les jours, quoi. Moi, je croyais que c'était ça, en fait, la vie. Puis il est mort et c'est bien.
Anouk Rimbert, vous savez ce qui se passait dans votre tête ou dans votre cerveau quand vous interprétiez cette femme?
Non, c'est d'autant plus mystérieux que je me souviens, quand on a tourné cette séquence, en fait, c'est de l'improvisation. On m'a prévenu une heure avant qu'on allait me demander de parler autour des maris. Et j'étais fâchée qu'on me prévienne juste à l'avance. Et puis j'y suis allée. Et je me souviens que dans cette salle où on tournait, il y avait une vingtaine de femmes. Des femmes qui avaient réellement vécu dans les bidonvilles et avec tout ce qu'on peut imaginer. Mmh. Bon. Et au moment où je joue, où c'est à moi de parler, il y avait en face de moi une femme des bidonvilles qui était... On s'aimait bien, elle m'apprenait à tricoter, elle m'avait un tout petit peu raconté sa vie, elle était... C'était le lumpen prolétariat, quoi. Et au moment où je parle, où je raconte cette histoire qui m'est venue sans que j'ai pu la préparer ou quoi, cette femme s'endort. Ses yeux deviennent blancs. Elle s'endort et dès que la metteur en scène dit « couper », donc la prise est finie, cette femme se réveille. On me demande de refaire la séquence. Hop, elle se réendort, les yeux deviennent blancs et on dit couper et elle se réveille. Et ensuite, la scène se termine, on sort, elle me serre dans ses bras comme ça, presque en tremblant. Et elle me dit « c'est ma vie que t'as racontée ». Et je ne le savais pas, moi. Elle ne me l'avait pas raconté, sa vie. Mais ce que j'essaye d'expliquer aussi un peu dans ce livre, c'est qu'il y a des mystérieuses choses qui se passent avec l'empathie.
C'est vraiment le mot qui me venait, parce que c'est vraiment, il y a vraiment une question d'empathie dans votre jeu, en l'occurrence là, pour cette thématique-là. Le spectateur aussi qu'il regarde, on ne sait plus, il n'y a plus tellement de frontières. On a beaucoup parlé des neurones miroirs, alors je ne sais pas, Laurent Vercueil, si ça a à voir avec les neurones miroirs, ces neurones qu'on a qui font que les chimpanzés ont aussi, qui font quand on voit quelqu'un manger une pizza, on a envie de la manger immédiatement. Ou quand on simule, on en revient aussi au mensonge et à la réalité, quand on simule dans notre cerveau, c'est les mêmes zones qui s'activent que quand on fait quelque chose réellement, c'est ça?
Oui, complètement. Si on imagine un geste, on a les mêmes activités que si on réalise ce geste. Et si on voit quelqu'un faire ce geste, notre système miroir s'active de la même façon. Donc, la fonction exacte des neurones miroirs, alors on pense que c'est un rôle important dans les apprentissages, le fait de pouvoir apprendre par, en fait, l'imitation, l'imitation y compris mentale. Et puis ensuite, on a tendance à connecter ça un petit peu avec le système qui a un lien avec l'empathie, bien que l'empathie puisse aussi mobiliser des régions qui sont tout à fait différentes. L'empathie, c'est quand même quelque chose de très complexe. Alors, on commence à distinguer ce qui est empathie émotionnelle, empathie cognitive. Empathie émotionnelle, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que c'est des signaux qui ne vont pas passer par le langage, qui vont passer par des choses qui sont difficiles à décrire, mais qui font que...
Les émotions et qui passe directement. Et donc,
c'est une sorte de résonance émotionnelle.
Émotionnelle.
Ce que vous vivez, je le vis.
Bien sûr.
Comment ça se fait que je le vis? C'est que les émotions qui vous traversent, je les porte en moi. Et on s'allume les uns les autres, on habite le corps des autres, qu'on les connaisse ou pas. Alors après, si c'est tellement ça, l'empathie, on se dit, mais alors, comment ça se fait qu'on n'est pas tous malades les uns des autres? Si la matière de l'un entre dans le corps de l'autre, pas tous contagieux. En fait, la nature a voulu, vous me direz si j'ai tort, mais la nature a mis des bornes assez strictes à l'empathie. On pourrait presque croire que le cerveau est de droite, parce que, par exemple, l'empathie...
Si j'étais trop empathique, on n'y résisterait pas. Vous parlez d'interrupteurs, d'ailleurs, Laurent Vercueil, dans votre ouvrage. Il y a des interrupteurs on et off.
Mais c'est la fonction des émotions, de nous connecter autrement que par le langage. Les émotions priment sont bien antérieures au langage.
On va arrêter de parler. On va se mettre dans les émotions à l'écoute de votre choix musical, Anouk Rimbert. Merci d'ailleurs pour la voix puissante de Nina Simone. Ain't got no way, celle qui chante pour celles qui n'ont rien. Nina Simone sur RFI. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no
mother. Ain't got no culture. Ain't got no friends. Ain't got no schooling. Ain't got no love. Ain't got no name. Ain't got no ticket. Ain't got no token. Ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head. Got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my
I've got life, Nina Simone sur RFI. Merci Anne Grimbert pour ce très inspirant choix musical. Autour de la question comment se mettre dans le cerveau de l'autre, on poursuit avec deux ouvrages à gagner, chers amis auditeurs. Notre face-à-face entre le neurologue Laurent Vercueil qui vient de publier Un petit vélo dans la tête en BD et la comédienne Anne Grimbert qui a mené elle l'enquête pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau des comédiens. C'est paru aux éditions Odile Jacob. Vous avez Anouk interrogé vos amis, comédiennes, comédiens, mais aussi d'éminents neuroscientifiques, alors comme Laurent Cohen ou Lionel Nakache de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Lionel Nakache, qui était lui aussi notre invité, auteur d'un ouvrage assez hallucinant, Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience, paru lui aussi chez Odile Jacob, dans lequel Lionel Nakache donc fait le parallèle entre le cinéma intérieur dans notre tête et celui sur grand écran, en poussant, si j'ose dire, le bouchon et ses recherches encore plus loin, jusqu'à comparer notre petit vélo dans la tête, notre cinéma intérieur, avec celui que nous projetons, que nous avons inventé dans les salles obscures. Autour de la question pourquoi et comment notre esprit fait son cinéma, et c'est même lui qui a commencé, hein, on écoute Lionel Nakache et vous réagirez tous les deux ensuite.
Notre esprit-cerveau, si on veut l'appeler comme ça, invente, il crée, en fait, il crée les images qu'il a perçues et qui sont à intercaler entre deux images successives. Donc on a une sorte de moulinette en nous, et sur lequel le cinéma repose, en fait, le vrai cinéma, qui transforme des images fixes successives en une histoire continue. Et si on s'arrête encore un instant là-dessus, ça veut dire que déjà notre cerveau, si on veut l'appeler comme ça, notre esprit-cerveau, en fait, il invente l'histoire qui permet de faire sens de ces suites d'images. Et on est déjà dans de la fiction et dans de la narration, en réalité, dès l'entrée, en fait, dès cette première étape de mouliner du discret, des images discrètes en film continu.
C'est ça, des images discrètes, c'est-à-dire des images fixes, un peu comme ces flip-flops, hein, ces livres qu'on pouvait tourner les images très
Exactement.
Vite et on faisait le film. C'est comme ça que marche notre cerveau, c'est comme ça que marche le cinéma. Et alors, il y a juste une différence de rythme. Hein. Le cinéma, c'est 24 images par seconde. Et vous avez calculé, démontré, vu que dans notre esprit-cerveau, comme vous dites, c'est un peu plus lent.
Oui, c'est plus lent. C'est, évidemment, ça peut fluctuer un peu. C'est autour de 10, 13 images par seconde. On pourra peut-être raffiner aussi, parce qu'évidemment, notre cinéma intérieur à nous est beaucoup plus évolué que le cinéma technologique, le cinéma tout court, on pourrait dire.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que, par exemple, évidemment, dans une salle de cinéma, quand on vous envoie 24 images par seconde, ce sont 24 images entières qu'on vous envoie. Mmh. Alors qu'en fait, notre cinéma intérieur, qui fonctionne effectivement, le point important de la métaphore qui fonctionne, c'est qu'on a énormément d'arguments pour penser qu'effectivement, lorsqu'on est les yeux ouverts face au monde, en fait, on a une capture de sortes de saisies discrètes, comme si on prenait en photo, si on veut dire un peu comme ça, à la vitesse de 10-13 par seconde, et qu'on invente ce qu'il y a entre les images. Donc vraiment comme le cinéma, c'est ça le point fort de la métaphore. Mais un des aspects vertigineux que je développe et que j'aborde aussi dans le livre, c'est que dans le cinéma intérieur, ce n'est pas toute l'image qui est capturée toute la 10 ou 13 fois par seconde, ce sont les parties de l'image auxquelles on fait attention, et les autres, elles vont être produites d'une autre façon encore. Donc c'est comme si vous voulez, dans une salle de cinéma, ce qu'on vous envoyait à 24 images par seconde, c'est pas toute l'image, mais c'est les parties de l'image auxquelles vous faites attention. Donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus vertigineux encore, mais déjà, le point de départ le plus fort, c'est que cette machinerie, cette sorte de mécanisme qui permet de transformer des images successives en une continuité, à inventer ce qu'il y a entre les images, ça c'est vrai au cinéma et c'est vrai dans notre cinéma. Et à vrai dire, le cinéma tout court, il exploite, et initialement sans le savoir, cette propriété de l'esprit humain en réalité.
Laurent Vercueil, vous en pensez quoi de ce cinéma intérieur qu'on se fait tout le temps dans notre tête ?
Oui, moi je suis très admiratif hein, du travail de Lionel Nakache comme scientifique et puis aussi comme communicant et son dernier bouquin est excellent. Ça, il montre bien, et là encore dans cet extrait, hein, à quel point le cerveau crée le monde qu'il expérimente en fait. Hein. Et dans ce que nous vivons, bon, bien sûr c'est contraint par la réalité. La réalité a un impact quand même, on ne peut pas dire qu'on est complètement déconnecté. Hein. Mais aux marges, on est très inventif. Hein. Donc on arrive à recréer une partie de l'image que nous percevons, on arrive à créer cette sensation de fluidité des images alors qu'en fait, elles sont discrètes, elles sont les unes après les autres. Donc c'est ça qu'il décrit très bien dans son ouvrage.
On est très fort, on est vraiment des super-héros et finalement, peut-être que c'est vous, Anne Grimbert, notamment en ayant parlé avec Lionel Nakache, avec tous ces neuroscientifiques, qui avaient quoi réussi à comprendre un peu mieux comment vous... Bah comment vous faites en tant que comédienne pour jouer comme ça le jeu de l'autre ?
Au début, quand je suis allée trouver Lionel Nakache il y a 7 ans, je lui ai demandé s'il pourrait m'aider à comprendre ce qui se passe dans un cerveau qui joue la comédie. Et puis j'ai assez vite compris en discutant avec lui que je ne pouvais pas comprendre ce que c'est qu'un cerveau qui joue sans comprendre ce que c'est qu'un cerveau qui ne joue pas. Et un cerveau qui ne joue pas, j'ai compris avec Lionel et tous ses travaux qu'un cerveau qui ne joue pas, qui est dans la réalité, qui n'est pas acteur professionnel, un cerveau qui ne joue pas, c'est un cerveau qui se fait du cinéma tout le temps. On est dans le cinéma tout le temps. Le cerveau est dans le cinéma, c'est irrépressible, inconscient, c'est sa façon d'être au monde, c'est sa façon de comprendre le monde. Il remonte le film, il commente le film, c'est le Léon Zitrone du film, et en même temps c'est la reine d'Angleterre qui est filmée.
C'est rassurant ça pour vous, enfin,
c'est pas que c'est rassurant ou pas rassurant, c'est fascinant. C'est fascinant, bien la d'accord. Connaissance, ça révolutionne. Moi, rencontrer les neurosciences et en particulier les travaux de Lionel, ça m'a changé ma vision du monde. Ça a changé la connaissance de moi. Ça m'a changé aussi le rapport aux autres. Parce que, en gros, ce que je croyais être la vie, ce que je prenais pour des fatalités... C'est de l'imaginaire, on manipule beaucoup l'imaginaire. Donc on a la main dessus aussi.
On a la main dessus et on est dans l'imaginaire. Laurent Vercueil,
on est dans l'imaginaire et il y a quand même un contrôle. Il y a quand même un contrôle cognitif.
Il y a toujours les deux.
On a un petit détecteur d'incongruité, de choses qui dérangent, qui ne sont pas là où elles devraient être. Et c'est ça qui nous permet de quand même garder... conserver la route, quoi, de rester un petit peu...
Bon, on n'a pas fini. On est loin d'avoir réussi à faire le tour de la question. Il va falloir que je vous réinvite tous les deux, parce que moi, j'ai encore envie de continuer. Merci, en tout cas, d'avoir croisé vos regards, vos approches, vos cerveaux, j'ai envie de dire, dans notre studio en direct sur RFI. Alors, je vous rappelle, chers amis auditeurs, qu'il est encore temps de nous demander par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale, un exemplaire des ouvrages de nos invités. Extra, tous les deux, vraiment passionnant. Je rappelle leur titre, Dans le cerveau des comédiens, rencontre avec entre des acteurs et des scientifiques. Anne Grimbert, paru chez Odile Jacob, et Laurent Vercueil pour la BD avec Gilles Macagnot, Un petit vélo dans la tête, La journée presque ordinaire d'un cerveau, paru chez Humaine Science. Vous revenez quand vous voulez tous les deux partager nos interrogations avec nos petits cerveaux, mais à trois, on y arrive tout seul. Hein. Et à quatre avec Hugo Violas derrière la vitre. Et aujourd'hui, c'était Raphaël Plusva dans les coulisses. Merci, chers amis auditeurs. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, dans quelques instants. C'est la suite des informations sur RFI. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et faites fonctionner votre imaginaire, évidemment.
RFI, la sélection du